On est de retour en onde et on va faire une entrevue avec Étienne Simard qui aurait participé à l'autogestion des cafés-bars de l'Université du Québec en Outaouais. Étienne, est-ce que tu es avec nous?
Oui.
Est-ce que ça va bien?
Oui, très bien, merci toi-même.
Oui. Donc, pour commencer, je te demanderai, dans le fond, d'expliquer aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce qui s'est passé exactement en septembre dans votre coin?
OK, bien, en gros, ça faisait un an que c'était une firme privée qui gérait les cafés-bars et cafétérias à l'Université du Québec en Outaouais. Autrefois, c'était l'institution universitaire qui gérait le café-bar et la coop alimentaire, disons, qui gérait la cafétéria. Puis, à un moment donné, par un tour de passe-passe institutionnel, ça avait été octroyé à une firme privée qui est la firme La Liberté. Après un an où elle a eu le contrat, elle a décidé de fermer les cafés-bars dès la rentrée en septembre 2008 parce que c'était pas assez rentable. Donc, à partir de ce moment-là, les étudiants et étudiantes ont réussi à rentrer dans le café-bar et ont commencé à l'occuper. Ça a duré... Ils ont décidé de l'occuper puis de lancer une campagne de boycott contre La Liberté. Puis c'était aussi intégré dans une campagne plus large de l'AC de sortir le privé des institutions publiques. Donc, c'est ça. Mais après 2 semaines, en fait, le contrat avec la firme La Liberté a été résilié. Puis c'est ça. On a réussi à foutre le privé dehors dès ce moment-là. Ça a été un combat qui a été quand même assez facilement gagné. Le processus de boycott, comment ça s'est passé, en gros, c'est qu'il y avait distribution de bouffe gratuite. Ben, c'était moyennant une contribution volontaire qui était distribuée directement à la cafétéria. Puis, c'est ça, la cafétéria, en fait, ne faisait presque plus de revenus à partir de ce moment-là. Puis ça a été l'action directe qui a permis de foutre le privé dehors. Donc, c'est pas mal dans ce contexte-là que ça a commencé.
OK. Puis, dans le fond, les actions que vous avez menées contre La Liberté, est-ce que c'était... tu m'as dit que c'était ciblé et dans une campagne de l'AC, mais jusqu'alors, est-ce qu'il y avait eu des désagréments par rapport à cette... si on veut, ce service alimentaire-là?
Disons que ça plaisait pas tellement, de un, parce que... c'est clair que c'était plus cher. Le service était moins bon que qu'est-ce qui était distribué autrefois, parce que c'est clair qu'une entreprise qui essaie de faire du profit pour l'octroi d'un service qui était de la bouffe dans une université, que ça peut faire une grande différence par rapport à une entreprise qui est là juste davantage pour donner un bon service ou pour qu'il existe justement un lieu comme le café-bar, par exemple, où il y a des activités académiques, militantes, débats, etc.
Puis d'ailleurs, c'est ce que vous avez vu lorsqu'ils ont décidé tout simplement de retirer cet espace-là uniquement parce qu'il n'était pas rentable.
Exactement.
Puis ça, ces cafés-bars-là sont situés, j'imagine, dans vos facultés respectives?
L'Université du Québec en Outaouais, c'est quand même assez petit. Donc, dans les pavillons qu'il y a à Gatineau, il y a seulement 2 pavillons. Puis les 2 cafés-bars ont été occupés.
OK.
2 cafétérias ont été boycottées, mais c'est clair que c'est dans le pavillon, disons, des sciences humaines où ça a été le plus intense. Puis c'est aussi dans le pavillon de sciences humaines où le café autogéré a le mieux fonctionné et fonctionne toujours. Donc, l'occupation illégale, ça fait toujours depuis... Ça fait déjà
encore
2 mois et demi.
Ah ouais? Ouais. Génial. Puis l'initiative venait des étudiants en tant que tels, d'une association étudiante en particulier ou du concours
en fait, au départ, c'était vraiment des étudiants et étudiantes qui ont décidé de lancer un petit comité qui avait pour but le rachat des cafés-bars.
Okay.
Ça a été récupéré par, au départ, 2 associations étudiantes, puis ça s'est élargi à 4 associations étudiantes de différents modules des sciences humaines qui ont lancé la... En fait, c'est vraiment à partir d'eux qu'ils ont lancé une campagne, disons, cohérente de boycott puis d'organisation de lutte puis des actions directes comme telles, puis qui faisaient aussi tout ce qui était élément de communication parce qu'il y avait des outils de communication, disons, plus importants qu'un un étudiant ou une étudiante qui n'est pas organisée, mettons, formellement. Puis... Oui, fait que moi, ça a quand même été beaucoup porté par les associations étudiantes, mais il y a eu un bassin de militants et militantes quand même assez élargi. Dans l'implication directe, c'est aux alentours de 40 ou 60 personnes.
Okay. Puis tu m'as dit que vous aviez eu un support de l'AC également?
Ouais, ben clairement, au niveau des communications, au niveau du matériel de mob, etc., parce que justement, ça concordait beaucoup avec la campagne cette année.
Ouais, puis,
ben, il y a l'Association des sciences sociales à l'UQO qui est membre de l'AC, donc...
OK. Puis, je voulais savoir, le comité, si on veut, qui s'est mis sur pied pour contester et se réapproprier, si on veut, le service alimentaire, s'est mis sur pied en septembre ou existait déjà auparavant?
En septembre.
Okay.
Ça s'est fait très vite. En fait, ça a pris une semaine, puis le comité est organisé, puis disons que la lutte commence.
Oui, c'est assez efficace.
Oui, quand même.
Oui, puis pour ce qui est de la participation, j'ai lu qu'il y avait quand même une très bonne participation. Les gens étaient assez willing jusqu'à participer aux bouffes plutôt que d'aller tout simplement à la cafétéria.
Ouais.
Puis même de professeurs, peux-tu me décrire un peu l'ambiance qu'il y avait dans les cafés autogérés?
Ben en fait, c'est ça, la participation, en fait, de l'ordre de tout le monde qui ont participé, même de manière indirecte, ça pourrait ressembler à peut-être 700 personnes en tout, qui ont participé directement au boycott, puis qui donnaient des contributions volontaires, puis qui n'achetaient plus à la cafétéria, etc. Ça a été vraiment de tous les secteurs, disons, de la communauté universitaire, professeurs, chargés de cours, employés de soutien beaucoup aussi, puis ils sont tous devenus membres de la coop aussi par la suite avec l'aide d'appui etc. pour que la coop autogérée se formalise comme telle.
Oui, d'ailleurs la direction finit par résilier le contrat de la liberté en bout de ligne, ce qui a laissé un peu le champ ouvert à une coopérative étudiante qui je l'imagine en train de se mettre sur pied.
En fait, elle est déjà sur pied.
Okay.
Puis, on ne sait pas combien de temps encore ça va durer dans le mode sur lequel elle fonctionne en ce moment, mais c'est pas mal intéressant comment elle fonctionne. En gros, il y a, disons, un comité de... Ben là, c'est clair que ça fonctionne par AG pour le décisionnel, pour les orientations, etc. Il y a un comité de coordination à l'interne qui sert à s'assurer au ravitaillement de bouffe puis à... mettons, gérer un petit peu les horaires de volontariat.
Oui.
Mais par contre, c'est ça, il n'y a aucune gérance à l'interne. Puis, en fait, presque tout le monde qui est utilisateur, utilisatrice du café-bar comme tel est également formé à comment faire le café, etc.
Puis s'occuper
de la bouffe, s'occuper du café. Ouais, donc, le café fonctionne par lui-même, par les utilisateurs, utilisatrices qui sont là. En fait, c'est quand même spécial comme
phénomène. Ouais. Ça serait pas nécessairement comme les coop classiques qu'on connaît ou, admettons, les coop de travailleurs où c'est les travailleurs qui vont pouvoir y avoir un impact, mais aussi les consommateurs.
Oui, exact. Ben, en fait, ça a été le mode. Ben, disons, elle a été formalisée stratégiquement parce qu'on essayait de justement. On savait qu'on prendrait pas le contrôle sur l'université en général ou sur la société en général sur une base d'autogestion, disons, cet automne ou cet hiver.
Donc, oui.
L'idée a été de justement formaliser la coop pour qu'elle puisse être reconnue à l'interne. Comme tel, c'est ça, c'est sur le mode de coop de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a des membres utilisateurs, membres travailleurs, par contre, il n'y a pas d'employés pour l'instant, puis membres soutien aussi.
OK. Ah, mais c'est une belle expérience jusqu'ici. Tu me dis que c'est pas comme ça qu'on en vient à autogérer l'ensemble de l'espace public, mais c'est déjà un début, hein?
Oui, non, mais c'est ça.
Ouais.
C'est pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'attendait pas à ce résultat-là, disons, en occupant un café-bar.
Ah, OK. Puis donc, si on veut, ça dépasse au-delà des limites de votre imagination un peu.
Ben, ce qui dépasse surtout, c'est que je pensais pas que la mobilisation aurait duré aussi longtemps, puis qu'elle durerait encore, puis ça s'enligne pour continuer cet hiver tant aussi longtemps que... on n'est pas reconnu comme étant le gestionnaire, disons, du café-bar comme tel. Donc, ça va bon train, puis l'implication reste toujours aussi bonne. Ça a des hauts et des bas, c'est clair, mais ça reste quand même pas mal constant.
Puis au niveau de la répression que vous avez subie, est-ce que tu peux me faire un suivi?
Oui, ben en gros, ben c'est ça, c'est à la mi-octobre, il y a, je pense, une dizaine d'étudiants et étudiantes qui avaient reçu au départ des lettres, disons, il disait vous êtes accusé de telle offense. En gros, il était question d'indécence, d'intimidation, d'avoir ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. D'avoir bloqué, d'avoir entravé la circulation dans l'institution, puis d'avoir nui à la prestation d'un service, des services alimentaires à l'université. De tous ces gens-là, c'est seulement sept personnes qui ont été convoquées devant le comité de discipline à l'université. Puis, c'est ça, il y en a six qui ont eu des sanctions. Une personne a été suspendue, cinq autres ont eu des notes à leur dossier permanent d'étudiants et d'étudiantes. Depuis ce temps-là, ben là, c'est clair qu'il y a eu il y a eu une mobilisation autour de ça pour dénoncer la répression à l'interne. Puis en fait, ben, c'était inscrit aussi là, parce que c'était à travers la CIS, c'était pour dénoncer les dérives fascisantes des institutions d'enseignement postsecondaire au Québec. Puis c'est ça, on a eu une journée de grève qui réclamait le retrait des sanctions. Là-dessus, ça a ouvert la porte à ce qu'on puisse aller rencontrer le CA de l'université pour leur exiger, le retrait des sanctions comme tel. Il y a eu aussi des procédures judiciaires qui ont été entreprises. Par contre, ça n'a pas encore abouti à ce niveau-là, mais ça devrait continuer possiblement cet hiver. On est en dilemme sur la stratégie parce que c'est clair qu'on s'attend pas toujours à grand-chose du système judiciaire pour se faire justice pour ce genre de trucs.
Ouais. D'autant plus que dans la situation présente, l'université, en même temps, penche un petit peu, si on veut, de votre côté, pour ce qui est de vous donner le contrôle, à quelque part, donner le contrôle aux étudiants des services alimentaires, notamment résilier le contrat, mais en même temps, elle se veut répressive, sûrement en vous surveillant, en vous entravant, puis là, en vous convoquant devant un comité de discipline.
Oui, ben en fait, il semble qu'elle a utilisé la situation, la direction de l'université a utilisé un peu la situation pour régler des comptes avec certains militants, certaines militantes, de plus longue date au sein de l'université. C'était quand même des personnes très ciblées qui ont été convoquées devant le comité de discipline, alors que c'était pas nécessairement des personnes qui avaient, commis des actions différentes des 40 autres personnes. Donc,
ouais, c'est sensiblement la même chose qui s'était déjà produit ici à l'université de Sherbrooke avec le CUNE. En tout cas, c'est un peu ridicule de voir que l'université en profite, dans le fond d'un contexte assez effervescent pour régler ses comptes. Là. C'est assez ridicule. Puis vous avez. Oui?
Ben, juste pour préciser, en gros, l'université n'est pas nécessairement favorable à ce que la coop, la coop autogérée gère les cafés-bars. En fait, il y a eu appel d'offres. Nous, on répondait absolument pas aux critères, mais on a quand même soumis un appel. Fait une soumission parce que c'était pour rentrer dans le système comme tel. Des trois appels d'offres qu'ils ont reçus, il n'y en avait pas une qui correspondait aux critères. Okay. Donc, ce que la direction a fait, elle a fini par décider, parce qu'elle ne pouvait plus l'octroyer à une firme privée. Je pense que c'est une règle de base de la gouvernance des universités. Donc, elle l'a donné à CoopSco, qui était l'ancienne coop universitaire. Donc, en ce moment, on en est à négocier avec CoopSco. Qui a reçu, en fait, qui s'est vu octroyer le contrat. On devrait négocier avec CoopSco. Négocier. On exige d'eux parce qu'on leur dit que dans la situation actuelle, de toute manière, le café-bar, c'est à nous. Puis socialement, à l'intérieur de l'université, c'est à tout le monde. Puis les gens se l'ont beaucoup approprié. Puis qu'ils arrivent dans le contexte en disant, c'est nous qui gérons le café-bar maintenant. Mais il n'est pas question de ça parce qu'on a déjà... En plus d'être socialement, approprié, il y a quand même cinq associations étudiantes, dont l'association générale qui a formellement la position que c'est que le café-bar soit octroyé à la nouvelle coop autogérée. Il y a le syndicat des professeurs également qui a cette position-là formelle. Puis il y a dans l'AG de la coop autogérée elle-même qui a des mandats à défendre à ce niveau-là. Donc c'est clair que la mobilisation, si CoopSco boque, c'est clair que la mobilisation continue à ce niveau-là, puis qu'il y a un paquet de gens qui ont même des mandats formels à continuer à défendre ardemment le fait que ce soit la coop autogérée qui gère les cafés-bars. Donc voilà.
Oui, bien, on va aller, d'un côté, on va aller faire une courte pause musicale, puis on va continuer l'entrevue après cette pause-là. Vous écoutez une entrevue avec Étienne Simard qui nous parle de l'occupation et de l'autogestion des cafés-bars de l'Université de Québec en Ottawa. Donc, à tout de suite. On va continuer l'entrevue avec Étienne Simard. Étienne, est-ce que tu es encore avec nous?
Oui.
Oui, parfait. Donc, pour continuer, je voulais savoir quel type de moyen de pression a été utilisé durant l'occupation. Je veux dire, l'occupation est un moyen de pression en tant que tel, on s'entend. Là. Mais quel type de démarche vous avez entrepris et avec l'université et contre les services alimentaires de la Liberté pour obtenir la gestion aussi directe?
OK. Ben en gros, c'est ça. Il y a eu boycott, occupation, comme on a dit tout à l'heure. C'est ça. Non seulement une occupation, mais une prise en charge, disons, immédiate de la gestion des lieux puis du service comme tel. Ça n'a pas juste été une occupation des lieux. C'est ça. Distribution de nourriture gratuite pour alimenter appuyer le boycott ou renforcer le boycott. Là, c'est clair, à travers de tout ça. En fait, pendant le boycott, il n'y a pas vraiment eu de négo avec l'université. C'était assez fermé à ce niveau-là. Je pense qu'ils avaient déjà possiblement dans leur agenda de résilier le contrat ou quoi que ce soit, puis qu'ils étaient bien contents du boycott au départ parce qu'ils se sont alignés quand même assez vite sur les négociations, sur la résiliation du contrat avec la firme La Liberté. Par la suite, c'est ça. Il y a eu mise sur pied de la coop, puis tentative de c'était toujours de la défendre, de la consolider, puis de la défendre.
Ouais.
Donc, ça a été d'aller chercher un membership le plus large possible, puis le plus diversifié possible pour avoir une coop qui soit bien implantée dans l'université comme telle.
Puis à ce niveau-là, les gens ont bien réagi dès le départ en participant à l'autogestion?
Oui, ça a été un point. C'était très, très enthousiaste, en fait. Les réactions, en général, c'était pas mal bien. Les gens voulaient vraiment se l'approprier, le service, puis étaient contents que des gens amènent une nouvelle voie, une nouvelle façon de gérer le café-bar. Puis ça a été une initiative qui a été soutenue et financièrement et idéologiquement. Puis même, certains ont utilisé un peu leur influence pour appuyer le truc. Il y a même un département de l'université, le département de travail social, sciences sociales, qui ont appuyé directement le projet. Ça, c'est l'ensemble des profs.
Oh, génial, ça. Donc, l'autogestion, ça plaît aux gens?
Oui. Ça plaît aux gens, puis c'est ça. C'est en fait, ils peuvent tellement en faire ce qu'ils en veulent que ça leur plaît pas mal. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que Le café-bar, autrefois, à l'université, était très dynamique jusqu'à ce qu'on nous enlève le droit de fumer à l'intérieur du café-bar. Et depuis, ça a juste été une décadence totale dans la fréquentation, la fréquentation des lieux, puis la participation aux activités qui avaient été organisées dans le café-bar, etc. Le café-bar n'était plus tellement vivant ni dynamique. Puis depuis qu'il est occupé, en fait, ça n'a jamais été aussi vivant. Il n'y a jamais eu autant de monde dans le café-bar. Puis maintenant, il y a des gens qui ont fait des dons d'instruments de musique. Donc, il y a des instruments de musique que les gens peuvent utiliser au café-bar. Ce genre de truc-là. Donc, c'est devenu très rapidement un café très, très approprié, très, très dynamique, très vivant, parce que directement la propriété des utilisateurs puis des travailleurs, etc. et utilisatrices. Voilà.
Puis, au niveau de l'organisation, c'est quoi le processus de prise de décision?
C'est ça. C'est que dans la coop comme telle, c'est toutes les décisions, les orientations sont prises en assemblée générale. C'est comme ça que ça a été décidé, puis c'est très, très clair dans la charte qu'on a rédigée à cet effet-là, qui a été adoptée il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est vraiment l'instance. Les statuts règlements préconisent que toutes les décisions soient prises par l'Assemblée générale. Là, c'est clair que le comité de coordination ou conseil d'administration, ensuite prennent ces positions-là, puis les poussent, puis doivent faire un petit peu de pouce sur les positions d'AG parce que c'est un peu comme ça. Ça fonctionne souvent dans la mesure où, dans l'application puis les technicalités, c'est clair que l'AG s'y penche un peu moins, mais Ouais, ben c'est ça. Pour tout ce qui est position, disons, idéologique ou d'orientation pour le café-bar, que ce soit la forme de gestion, que ce soit pour négocier avec un tiers parti, etc., ben ça se décide en Assemblée générale.
Puis là, on va tomber peut-être dans les questions qui te concernent plus toi. C'est quoi le rôle que tu as joué dans le processus?
Ouf, ben c'est un petit peu tout genre d'affaires. En fait, c'est que moi, je milite dans le mouvement étudiant depuis quand même plusieurs années. Puis je suis encore étudiant à l'UQO, mais je suis à la maîtrise en rédaction, donc je suis beaucoup moins là. Par contre, ben justement, le fait qu'il y a eu ce soulèvement-là, qui a été quand même assez spontané à l'université, ça m'a donné le goût d'aller y participer directement. Donc j'ai participé pas mal à toutes les actions. C'est clair que j'ai essayé de faire aussi de faire un peu d'éducation populaire, d'éducation militante un peu, parce qu'il y avait énormément de nouvellement impliqués, si on veut, qui n'étaient pas impliqués autrefois, qui n'avaient pas été militants. Donc, c'est ça. On a fait quand même des trucs d'éducation populaire. On s'est servi des situations concrètes pour essayer d'éduquer à comment entreprendre certains moyens d'action directe qui peuvent mener efficacement à un gain direct, si on veut. Puis, c'est ça, en fait, j'ai pas mal participé à tout, puis j'ai pas mal fait des liens d'informations aussi, toujours aller chercher plus d'infos, puis mettre à jour les trucs, rédiger des communiqués, des choses comme ça. Ça a été pas mal un travail collectif, donc c'est pas mal, tout le monde a fait un peu de tout, puis ça ressemble à ça.
Génial. Puis ça vous fait un bon bassin, si on veut, de nouvelles militants, militantes, à partir de là, d'autant plus que c'est souvent dans ces situations-là qu'on se radicalise.
Oui, bien clairement, oui. Clairement, mais ça a été ça aussi le but de l'éducation populaire comme telle. C'était un peu la radicalisation des gens qui avaient un peu déjà des idées sur ce que, selon eux, ça devait être, etc., puis de leur donner des moyens, justement, des moyens d'action directs pour pouvoir y arriver, puis aussi essayer de stimuler un peu une réflexion...
sur l'autogestion.
Une réflexion plus large, ben pas juste sur l'autogestion, mais, tu sais, avec l'exemple de la répression, mais on a pu parler de... On a pu parler de répression institutionnelle, etc. On est allé plus loin. Il y a des gens qui ont fait des projets d'art qui ont en fait incarné la répression par un Léviathan fait avec les mises en demeure. Vous allez voir la photo, il est là sur le blog de la coop comme tel. Donc, ouais, c'est ça. Il y a eu quand même d'éducation sur la répression institutionnelle, que ce soit étatique ou universitaire. Puis, on a quand même fait pas mal de pouces sur... tous les exemples concrets qu'on a pu avoir pour faire, disons, de la sensibilisation, de la conscientisation d'un certain nombre de réalités.
Puis, j'imagine que l'idée d'autogestion est généralement relativement bien répandue dans les milieux étudiants, mais est-ce que c'est ça qui est venu initialement à l'idée de tous et de toutes, ou s'il y a un certain processus de...
En fait, il y a eu quand même des conflits importants dès le départ entre... je dirais deux grandes tendances. Il y avait une tendance qui voulait... dans les deux cas, c'était quand même l'option coop qui y allait, mais il y en a une qui était... La vraie tendance était davantage contrôlée par l'Association générale des étudiants et étudiantes, qui avait pour but de faire un contrat, une entente de partenariat avec CoopSco, qui est la vieille coop, mettons. Puis... c'est clair que dans ce cas-là, il était moins question de démocratie directe, sauf que c'était quand même une coop, mais une coop qui n'est pas tant appropriée par les membres. Ben, il y aurait eu quand même moyen de faire ça. Donc, la question de l'autogestion était quand même assez généralisée. Par contre, la voie pour y aller, disons qu'il y avait une voie beaucoup plus radicale, beaucoup plus directe, puis il y en avait une beaucoup plus nuancée, beaucoup plus, je voudrais pas dire molle, mais tu sais, c'était vraiment pas ancré dans une stratégie de conflit avec l'institution, avec le privé, puis ça remettait pas en question.
Quelque part, c'est nier la situation que de pas voir le besoin d'un mouvement radical et fort, là.
Exact. Non, c'est ça, c'était vraiment une question de concertation, puis de... puis, au pire, dans le conflit, il y avait la pétition pour une pétition de prêche, etc., pour montrer qu'il y avait un appui de masse... à la résiliation du contrat avec la liberté, mais ça a quand même aidé, là, comme tel. C'est quand même ça jumelé à d'autres stratégies, c'était quand même bien, mais je suis pas sûr que c'est ça que ça ait pu avoir un impact aussi fort que le boycott comme tel, disons la perturbation économique directe de l'entreprise. Je pense que niveau deux poids, deux mesures, c'est assez inégal.
Ouais. OK. Puis j'ai lu aussi également qu'il y avait eu une barricade qui s'était faite pour justement bloquer l'accès à la...
Oui, ben c'est ça. Par rapport à la barricade, là, en ce moment, pour des questions juridiques, mettons que la notion de barricade est un peu contestée par rapport à ça. Par contre, ben, c'est clair, ben, comment c'est installé dans la cafétéria, en gros, c'est que directement devant l'entrée de où tu as accès au comptoir pour recevoir la bouffe et la payer, ben, avait été installé plusieurs tables, disons, qui faisaient un petit peu le tour, puis que c'est là-dessus qu'était distribué de la bouffe.
OK.
Ouais.
Donc, c'était rien de trop, il n'y avait pas de pavé sanglant, là.
Non, c'est ça. Ben, en fait, il y avait eu une altercation en fait avec un membre de la direction le matin qui s'est frustré.
Il voulait son muffin.
Non, c'est ça. Mais c'est clair, par contre, que les tables étaient protégées puis que si des gens étaient venus les arracher, etc., ben,
ouais.
Tu sais ce qu'ils auraient pu se produire, mais je veux dire, elles étaient quand même bien protégées par beaucoup de gens. Pis,
ah, c'est ce qu'il faut.
C'était comme ça, ouais.
Donc, on y retournerait faire une pause musicale. Est-ce que ça t'intéresse de rester avec nous pour encore une dizaine de minutes? Parfait. Okay, fait que... On revient dans 5 minutes.
Parfait.
Donc, une fois de plus, de retour en onde avec Étienne Simard, tu es encore des nôtres?
Oui.
Génial. Puis, je te relancerai tout de suite en te demandant, c'est quoi le rôle que l'AC a joué pour ce qui est, dans le fond, le support qu'elle a pu apporter ou tout simplement aussi la campagne qui s'articule cette année autour des services publics?
Donc, pour commencer, c'est clair que... c'est ça. Ça a été le matériel de mob qui a été produit au départ pour la campagne contre l'ingérence du privé dans les institutions publiques. Donc, au niveau support matériel mob, ça a été super parce qu'on avait tout en commençant presque. En fait, après peut-être une semaine et demie, mais c'est ça. Ça a été la première aide. Deuxièmement, mais étant donné que on avait un... une association qui était membre de l'AC. Il y a un des membres de l'exécutif, l'interne de l'AC, qui est venu quand même beaucoup travailler de terrain puis donner un bon coup de main. Puis il est étudiant de l'UCO aussi, donc il devait venir de toute façon pour suivre quelques cours pendant la session. Puis c'est ça a été un support direct pour la mobilisation, l'organisation d'actions, etc. On avait, disons, un support logistique à ce niveau-là. Il y a également des militants de l'AC qui sont venus pour faire des tournées de classe, pour nous donner un coup de main pour les tournées de classe, etc., quand on recrutait du membership, puis qu'on mobilisait aussi pour la grève contre la répression, qui s'appelait la journée de solidarité étudiante. Ce qui était fait au niveau média aussi... l'AC a fait une sortie au national, en fait deux sorties au national sur la question de la répression, dont une qui a eu lieu directement à l'UCO comme telle. Donc c'est quand même, c'était d'essayer d'ancrer la lutte pour l'autogestion des cafés-bars à l'université dans la campagne nationale, mais aussi dans une lutte au national contre l'ingérence du privé dans les institutions publiques.
Puis
ça ressemble pas mal à ça.
Ouais, OK. Fait que, dans le fond, jusqu'ici, la campagne va bon train, d'autant plus que, justement, il y a de plus en plus de conflits qui sur les campus par rapport aux services qui sont offerts. Je pense notamment, tu sais, ici à l'Université de Sherbrooke, où la coop va être à quelque part. Mais en fait, les services alimentaires risquent d'être donnés à une coop qui serait étudiante. Je crois qu'ailleurs aussi, de plus en plus, les services de librairie vont être donnés par des coops étudiantes. Fait qu'à quelque part... C'est à ce niveau-là, il y a une tendance qui est assez positive, on pourrait dire.
Oui.
Puis, je voulais savoir aussi également, peut-être niveau gastronomique, c'est quel genre de repas vous distribuez avec, le bar autogéré, puisque nous, admettons, ici à l'Université de Sherbrooke, le Q a certains problèmes, ne peut pas, a un certain nombre de restrictions, puis notamment ce qui serait, admettons, de la viande, ou tout simplement les critères du MAPAC qui sont, ma foi, ô combien serrés?
C'est ça. Mais pour l'instant, en fait, il y a comme deux phases un peu. Pendant qu'il y avait boycott, mais on servait des repas complets. En fait, il y avait un groupe différent à chaque jour qui préparait un repas complet, souvent végé, généralement très légumes, très légumes céréales, mettons. Puis, la bouffe nourrissante et consistante. Donc, c'était beaucoup ça parce que c'était au quotidien. Ouais, et peu cher parce que c'était au quotidien dans le temps, puis on distribuait de la bouffe. Par contre, une fois que le boycott a cessé, la distribution de repas complets a cessé aussi, tant et aussi longtemps que on pouvait pas continuer sur ce beat-là au quotidien avec le peu d'organisation qu'on avait au départ. Mais par contre, c'est ça, on s'était doté, donc on s'est concentré sur le café comme tel parce qu'on s'occupait pas de la cafétéria, donc pas de repas complets. Donc ça a été café, on s'est doté de café, là c'est équitable, bio, etc. Là. Ça a été des muffins qui étaient produits localement aussi par une petite boulangerie, des biscuits qui étaient produits par une entreprise d'économie sociale. On avait du pain puis un toaster avec de la confiture et du beurre de peanuts. C'était très, très basic comme truc en fait, c'est ce qui était offert pour l'instant, des fruits aussi. Ce qui était offert pour l'instant dans le café-bar en attendant pendant le processus d'organisation. Là, pour ce qui va être, mais là, en ce moment, il y a les négociations avec Coopsco pour savoir, dans le fond, qui va prendre quoi comme octroi de service. Donc, on ne sait pas encore exactement ce que ça va avoir l'air. Nous, ce qu'on tient, c'est vraiment le contrôle du lieu puis de la dynamique du lieu, de pouvoir avoir encore. Distribuer café et muffins, des trucs pour la compagnie, pour faire vivre le café un peu. Il va avoir, c'est sûr qu'il va avoir possiblement débat sur la question de l'alcool aussi, parce qu'avant il y avait vente d'alcool. Là, maintenant, on n'a plus de permis d'alcool. Okay. Donc, c'est pas évident. D'ailleurs, une des accusations était de distribution illégale d'alcool aussi dans le processus de répression. C'est important. Mais, ouais, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, mais c'est ça pour les orientations concrètes des services qui vont être offerts. Parce que c'est clair que ça risque de se concrétiser un peu plus cet hiver. Donc, on ne sait pas encore, mais c'est clair qu'on n'offrira probablement pas des repas complets. Ben, des frites, assurément pas, mais des repas complets comme peut l'offrir la cafétéria dans la mesure où on n'a aucun équipement culinaire.
Ça va venir avec le temps.
Possiblement.
Aussitôt que ça se consolide.
Puis un jour, on prend la cafétéria aussi, en plus.
Oui, ben, j'imagine que ça doit être dans la suite logique des choses, mais jusqu'ici, les bars appartiennent aux étudiants et étudiantes.
Oui.
Puis bientôt, ce sera l'université et ensuite le monde.
Exactement.
Parfait. Donc, je ne sais pas si on a fait, je crois qu'on a réussi à faire le tour de la question. Si tu veux rajouter quelque chose pour nos auditeurs, auditrices et à tous ceux et celles qui rêvent d'autogestion la nuit, tu peux y aller d'un élan.
Ben, en fait, je suggérerais juste aux gens qui ont envie ou qui voient des problèmes justement ou qui veulent joindre la lutte contre le privé dans les institutions publiques ou contre le privé, point, mais que l'autogestion, lorsqu'il y a un intérêt certain populaire et général pour un service en particulier, ben de se lancer dans l'aventure, la folle aventure de l'autogestion et que ça peut rapporter beaucoup beaucoup plus en fait que la simple appropriation populaire d'un service en fait au niveau éducation et conscientisation de la dynamique plus large et de la répression sociale, etc. Ça apporte énormément pour les luttes sociales à venir. Donc ben, je vous invite à le faire, puis si vous avez besoin d'un coup de main aussi, il y a pas mal de monde à l'UQO qui maintenant le font depuis plusieurs mois, et ça ferait certainement plaisir de donner un coup de main.
Parfait, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc, voilà. Nous, ici à la Rage du Peuple, on te remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Puis,
c'est moi qui vous remercie.
On n'aura pas l'occasion de se dire au revoir hors des ondes, donc je te dis tout de suite au revoir. Puis, pour ce qui est de l'entrevue, on va sûrement pouvoir l'isoler et la mettre sur notre blog à l'adresse suivante, au cacs.propagande.org, qui est le blog du collectif du 19 juillet. Donc, là-dessus, vous pourrez récupérer l'entrevue et j'adresse l'information aussi aux auditeurs et auditrices.
Ben, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Fait que nous, on va aller continuer. Après la pause musicale, on va faire une critique de livre, d'ailleurs, avec Étienne Provencher-Rousseau qui vient d'arriver en studio. Et puis, on va aussi faire un point, si on veut, historique sur ce qu'a été le Q à l'Université de Sherbrooke. Donc, à tout de suite.